chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Bon dimanche de la Passion. Vous savez que dans le rite traditionnel, les 15 derniers jours du carême sont le temps de la Passion. Voilà, nous allons rentrer dans ce temps aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, deux séquences. La première sera avec Pierre Jovanovic, qui est assez connu sur les plateaux de TV Liberté, mais qui aujourd'hui va venir parler de questions religieuses. Il parlera d'un livre qu'il a édité au Jardin des Livres sur la découverte de la tombe de Saint-Pierre. C'est la traduction d'un livre paru en anglais d'une archéologue qui a fait des travaux sur la tombe de Saint-Pierre. Puis nous discuterons avec Thomas Oswald de l'Aide à l'Église en détresse, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Témoins de l'espérance » sur la présence de signes d'espoir dans les persécutions. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre.
Bonjour. Merci à vous.
Merci d'être venu. Vous êtes journaliste, vous êtes éditeur, et je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un livre que vous avez édité, de Margherita Garducci, sur la découverte de la tombe de Saint-Pierre. Qui c'est cette Margherita Garducci d'abord ?
Alors, Margherita Garducci est une épigraphiste de l'école de Rome.
Donc épigraphiste, ça veut dire qu'elle est spécialiste des inscriptions, c'est ça ?
Exactement, elle est spécialiste des inscriptions, elle a fait ses armes notamment en Grèce. Elle a été mandatée à un moment donné par le Vatican pour essayer de comprendre où se trouve véritablement la tombe
de Saint-Pierre.
La fameuse tombe de Saint-Pierre.
Beaucoup de gens, y compris catholiques, s'interrogeaient sur le fait que la tombe de Saint-Pierre soit en dessous de l'autel de Saint-Pierre de Rome. Beaucoup de gens pensaient que c'était une façon de parler, que c'était pas la tradition.
Martin Luther qui
avait… Oui, exactement, il y avait une grosse polémique
en
protestante.
En disant, alors là, c'était en 1545, contre la papauté de Rome fondée par le diable, rien que ça.
Moi, c'est clair.
Oui, c'est très clair. Donc, en fait, pour Martin Luther, pour tous les protestants, en fait, le pape était totalement illégitime sur son trône.
Pie XII a l'idée, qui est quand même un peu gonflée, de dire chiche, on va voir si c'est vrai.
Alors, en fait, ça commence pas comme ça. C'est Pie XI. Hein,
d'accord.
Pie XI qui, sent qu'il va mourir et
demande à être enterré près de
Saint-Pierre. Voilà, je veux être enterré à côté de Saint-Pierre. Voilà. Ce qui est légitime.
Oui.
Moi, ça fait tilt dans ma tête parce que je me souviens d'un truc qui avait déferlé la chronique de Voici Gala et ainsi de suite, lorsqu'un milliardaire de Los Angeles avait demandé à être enterré à côté de Marilyn Monroe. Bon, ce qui est aussi tout aussi légitime.
C'est une forme de légitimité.
Dernier vœu, voilà, c'est son dernier vœu. Et donc, figurez-vous qu'il l'avait acheté très très cher. Je crois que c'était un million ou 2 millions de dollars à l'époque.
La concession à côté.
La concession juste à côté, donc dans le cimetière de Brentwood, de mémoire, juste à côté de celle de Marilyn Monroe. voilà. Et donc, moi, je comprends tout à fait le vœu du pape Pie XI.
Et donc, Pie XI, lui, n'achète pas une concession à un million, mais demande à être enterré près.
Exactement. Alors, tout le monde cogite, en fait. Je veux dire, depuis deux siècles, grosso modo, c'est la légende comme quoi il est enterré, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment sûrs. Ouais. Et donc, ils ont commencé à faire des travaux pour vérifier s'il y a de la place, déjà. Il n'y avait pas de place, donc il fallait creuser. Il fallait creuser. Et à un moment donné, il y a un ouvrier qui a tapé un peu trop fort avec son marteau et le sol s'est écroulé sous lui. Il s'est retrouvé instantanément. Il est passé du 20e siècle au 1er. Boum. C'est-à-dire qu'en fait, il est tombé dans une nécropole. Et en fait, tout le monde avait totalement oublié que ça a été construit, que Saint-Pierre de Rome, donc, a été construit. Oui, mais petit à petit, si vous voulez, c'est archéologique.
On va y revenir, mais…
On va y revenir, voilà. Et donc, c'est extraordinaire.
Et donc, pour enterrer Pie XI, on tombe sur la nécropole du 1er siècle, et après ça, il y a des fouilles qui sont organisées par…
C'est le cas.
Ouais, c'est absolument au sens propre. Et après ça, Pie XII dit, puisqu'on a ouvert le truc, allons-y gaiement et approfondissons ce champ de fouilles. Russie. Quoi.
Et exactement. Donc c'est un véritable labyrinthe. En fait, ils ont mis, de mémoire, je crois, ils ont mis 2 ans à peu près à en faire le tour.
Hein,
encore. Parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas toute la technologie qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est Pidouze donc, qui a... comment dire, qui a décidé, il s'est dit, bon, alors s'il y a vraiment ces nécropoles, ça se trouve, il est vraiment là, mais il ne faut pas que ça se sache. Donc il a entrepris, en fait,
des fouilles clandestines.
Des fouilles clandestines, et figurez-vous, qui ont été financées par un milliardaire américain qui a fait fortune. Dans la pierre,
dans le pétrole.
Dans le pétrole.
J'ai bien aimé votre.
Voilà, c'est George Strait.
C'est l'eau de Petros. Voilà, j'ai trouvé ça très, très joli.
Exactement. Pétrole, pierre, Petrus, Pedro, et ainsi de suite. Et c'est tout à fait extraordinaire. Donc, et le milliardaire. George Strait donc a financé pendant très très longtemps.
Et donc c'est un ami de Pidouze, c'est ça?
Exactement, c'est un ami du pape. Bon, enfin, c'est un ami avant même qu'il devienne pape, ça, puisque Pidouze était déjà aux côtés de Pie XI.
Bien sûr.
Hein, on se croirait dans le jeu des 7 familles. Pie XI, Pie XIII. Voilà. Et c'est là où Margherita Guarducci, donc qui était archéologue aussi, hein, bien entendu, intervient parce qu'en fait le pape n'était pas du tout satisfait en fait des résultats de l'épigraphiste officiel du Vatican qui lui s'appelait Antonio Ferrois et qui a d'ailleurs.
Et pourquoi est-ce que le pape n'était pas content?
Parce que en fait Antonio Ferrois avait tendance à bidonner ses résultats. Il faisait durer, donc il a fait intervenir une vraie pro quoi.
D'accord.
Alors effectivement ça a donné une guerre entre les deux.
Ouais, parce que c'est une femme qui débarque dans un milieu un peu masculin quand même. La curie romaine, c'est pas exactement ouvert aux femmes.
Exactement. Bah attendez, l'assistante de Pidouze avait raconté dans ses mémoires que quand elle traversait le Vatican, il y avait certains monseigneurs juste en voyant une femme tomber dans les papes quoi. Donc vous voyez un peu c'est pour resituer le contexte. C'est derrière. Donc vous imaginez les difficultés de Margherita Guarducci pour effectuer son travail, mais elle l'a fait d'une façon incroyable, son livre.
C'est lumineux. En tout cas, c'est très clair. On comprend bien.
Mais on dirait de l'Agathe Christie.
Exactement. Hein, il y a une logique d'enquête policière. Et alors, justement, revenons à l'enquête policière. Donc, ce qu'elle décrit, c'est une superposition. Donc, depuis le baldaquin du Bernin, on descend par 6 ou 7 étapes jusqu'au 1er siècle.
Exactement. En fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Margherita Guarducci explique qu'à l'époque, le Vatican, il n'y avait rien, c'était des marais. Il y avait
au 1er siècle, hein, au moment de la mort de
Saint-Pierre. Voilà. Et que, en fait, la colline du Vatican, c'est là où les Romains jeter les corps des esclaves.
C'est ça.
Voilà, pour qu'ils pourrissent tranquillement au soleil. Donc vous imaginez un petit peu l'ambiance.
Ouais, c'était pas très ragoûtant.
Non, vraiment pas. Et parallèlement à dans son livre, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est non seulement il y a son enquête policière, littéralement, hein, on peut le dire comme ça, et puis également, en fait, l'évolution du Vatican, c'est-à-dire d'une tombe, hein, ça part d'une tombe d'un esclave complètement anonyme, mais ce qui est extraordinaire, voyez-vous, dans la manière dont elle a découvert, elle a montré en fait que c'est un véritable labyrinthe, un peu, vous savez, comme une spirale d'escargot.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, il y a la tombe principale et petit à petit, voilà, parce que les gens demandaient être enterrés à côté de cette tombe. Vous me suivez ?
Oui, absolument.
Et c'est ça qui est fascinant. Vous savez, on a observé la même chose hein, dans d'autres lieux, hein, par exemple des saints qui ont été... qui vont devenir des saints, mais ils ont des gens qui demandaient à être enterrés à côté d'eux. Et donc, c'est complètement rationnel de vouloir être enterré à côté d'une tombe où il y a des miracles. Parce que l'important, si vous voulez, c'est de... Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait une émission sur Saint-Charbel, si ?
Non, c'est Jean-Pierre Mojean.
Voilà.
C'est la même logique. Hein.
C'est la même logique. Ouais. Charbel, moine libanais, meurt au 19e siècle, à la fin du 19e, et il est complètement anonyme, personne ne sait qui c'est, mais il y a des phénomènes surnaturels sur sa tombe. Ouais. Petit à petit, donc, il y a une personne, 2, 3, 10, 20, 30, et ainsi de suite. Et ça devient un véritable phénomène libanais, jusqu'au point que le Vatican, dans les années 50, 60, je ne sais plus, décide de le, comment dire, de le canoniser, voilà, béatifier et de le canoniser. Et bien là, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire qu'on, de ce que dit Guarducci, mais de ce que je pense aussi et d'autres d'ailleurs, c'est que, en fait, il y avait des événements surnaturels autour ou sur la tombe.
Que nous, on utilise à Saint-Pierre maintenant.
Exactement. Mmh. Autour de la tombe. Et c'est pour ça que les gens venaient effectivement prier sur sa tombe et ensuite demandaient à être enterrés à côté. C'est tout à fait extraordinaire. Ouais. Parce que justement, dans le livre, Margareta Guarducci montre bien, et d'ailleurs la couverture du livre, c'est Petros Ini, c'est Pierre est là.
– Pierre est là.
– Petit à petit, elle y va avec sa lampe de poche, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Ouais. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, depuis, les analyses, donc avec les instruments modernes du 21e siècle, ont établi que les os qui ont été retrouvés sont
siècle, hein.
voilà. Et en plus, bon, il y avait plein de tissus, enfin en or, etc. Enfin, alors que c'était pas le cas de toutes les autres tombes autour. Donc, on établit que c'était effectivement le corps d'un homme d'une soixantaine d'années, extrêmement robuste, et au pied manquant. Hein, parce que la tradition dit que Pierre a été
crucifié, donc on a coupé ses pieds
à l'envers. Voilà. Donc c'est vraiment.
Et alors peut-être qu'on pourrait terminer par ça, mais il y a dans le livre de Guarducci beaucoup de pages autour des graffitis, parce que pour comprendre ce qui se passe dans cette nécropole, il y a énormément de travail sur. À quelle époque tel graffiti pour dire quoi ?
Exactement.
Et alors moi j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise. Autant j'avais entendu parler de la découverte de la tombe de Saint-Pierre, autant les graffitis, j'avoue que ça, pour le coup c'est hyper impressionnant. Donc elle a des graffitis du premier, du deuxième, du quatrième, et à chaque fois ça s'intègre assez bien pour expliquer ce qui s'est passé avant.
C'est encore. Vous savez que je crois que c'est en 2010, hein, de mémoire, que le pape François,
c'est ça, donc, a sorti les restes de Saint-Pierre.
C'était en Mondovision. La messe elle a été retransmise.
Et pour dire ça, c'est les restes de Saint-Pierre.
Exactement, sauf en France.
Oui, absolument, c'est très
curieux. Non, c'est pas curieux, on a tous compris. voilà. Donc, et c'est pour ça que les Français, en fait, sont passés un peu…
À
côté du sujet. Alors que je trouve ça absolument extraordinaire, véritablement. Une enquête policière scientifique qui ont établi, effectivement, que c'était… il n'y avait strictement aucune raison, d'ailleurs, si ce n'était pas la tombe de Pierre ou qu'il n'y ait pas eu de miracle autour, on aurait retrouvé d'autres nécropoles à Rome, exactement, elles sont pas du tout faites autour.
Il y a d'ailleurs un passage assez intéressant sur la tradition qui dit qu'il y a eu une translation des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul dans les catacombes à l'extérieur de Rome, et elle est très très critique sur cette tradition en disant c'est pas très crédible quoi.
Oui,
et donc elle est pas du tout, j'allais dire béni oui de la tradition. Elle croit pas que c'est vrai parce que c'est la tradition. Elle dit là je crois que c'est vrai parce que les graffitis me disent que c'est vrai. Là-bas, je ne crois pas que c'est vrai parce que je ne vois pas du tout pourquoi ça serait vrai. Quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à la mort du pape, Margherita, Guarducci, figurez-vous qu'il lui a été interdit de se rendre sur le chantier de la nécropole.
Hein,
voilà. Son travail a été systématiquement bafoué, critiqué, dévalorisé par le club très un peu efféminé des Monseigneuries de Rome. Et Antonio Ferrua, donc le prêtre, eh bien, vous savez quoi ? Il a même emporté des os pour empêcher, parce que lui aussi, il avait compris que c'était bien la tombe de Saint-Pierre, il avait emporté les os afin que Margherita Guarducci ne puisse pas les identifier. Et Margherita.
C'est Paul VI qui a exigé qu'il les rapporte.
Exactement. Et le pape a exigé qu'il les rapporte sous peine d'excommunication.
Ah oui,
c'est énorme. C'est-à-dire, il était jaloux de la performance de Margherita Guarducci.
Cher Pierre, malheureusement, c'est passionnant, mais il faut qu'on s'arrête. On revient la semaine prochaine. On va reparler de la découverte de la tombe de Saint-Pierre, mais on va aussi parler plus généralement d'une logique de miracle. Merci beaucoup, cher Pierre Jovanovic. Vous veniez aujourd'hui parler du livre de Margherita Guarducci que vous avez édité sur la découverte de la tombe de Saint-Pierre. C'est publié aux éditions du Jardin des Livres qui sont votre.
Voilà, et je précise d'ailleurs que nos spectateurs peuvent télécharger les 30-40 premières pages du livre sur le site du Jardin des Livres. Excellent. Voilà, comme ça ils peuvent voir.
Ils peuvent se faire une idée.
Et c'est rempli, voilà, je précise que c'est rempli de photos.
Oui, oui c'est ça, c'est pas un livre difficile à lire.
C'est pas un difficile. Voilà, parce que son sinon ça aurait été
un peu austère.
On a toutes les preuves et c'est fascinant de voir comment cette église, cette cathédrale basilique s'est transformée au fil de temps et à nouveau le Christ 2000 ans avant tué Pierre et c'est sur cette pierre que je vais
on en reparle la semaine prochaine de ça. Merci beaucoup cher Pierre Jean-Marie. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Ozol. Bonjour Thomas.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Oui, je vous en prie. Vous êtes le. Vous occupez de l'information de l'aide à l'Église en détresse.
Oui, tout à fait.
Et vous venez de publier un très beau livre avec Benoît Blanpré, qui est le directeur, sur Témoins de l'espérance. Alors, on comprendra l'intérêt du titre. Présentez-nous un peu l'aide à l'Église en détresse.
Alors, c'est une œuvre qui va avoir bientôt 50 ans l'année prochaine, d'où aussi une des raisons pour faire ce livre-là, qui a été fondée en 1947, donc par le père Werenfried.
Le père Hollard,
exactement, c'est le père Hollard.
Qui est beaucoup passé derrière le rideau de fer pour apporter des.
C'était l'origine de la mission de l'aide à l'Église en détresse, justement, c'était de passer dans les pays soviétiques pour aider les églises souffrantes de ces régions-là. Et l'anecdote du Lard, c'est que c'était juste après-guerre, où il y avait des églises catholiques dans l'Est qui étaient très, très pauvres. Et ils venaient récolter ce que les gens pouvaient donner. Donc, quelquefois, effectivement, c'était des cochons. Ils repartaient avec ces cochons sous le bras.
C'est ça.
Et c'est comme ça que l'œuvre a commencé à naître et puis s'est répandue après tout autour du monde.
Et puis maintenant, c'est l'aide à l'Église en détresse, c'est 50 ou 100 aides à l'Église en détresse de Finlande, de France, de Rome.
On aide 140 pays. Hein. Enfin, il y a 140 pays qui sont concernés par l'aide à l'Église en détresse, soit qu'ils soient comme la France des pays donateurs, soit qu'ils soient des pays aidés.
Receveurs.
Ouais. Receveurs. Puis quelquefois, c'est les deux en même temps. Comme le Mexique, par exemple, où nous avons un bureau, mais qui est aussi un lieu où nous avons des projets.
– D'accord. Alors, évidemment, je ne vous recevais pas pour parler de l'aide à l'Église en détresse, mais pour parler de ce livre, parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le travail de l'AED, mais pas seul, ce qui me frappe beaucoup, c'est que personne ne parle de cette gigantesque persécution des chrétiens. Il y a des dizaines de millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi complètement librement. Alors, ça peut être un peu de laïcité ou ça peut être des vraies persécutions où on est en camp de concentration si on va à la messe, quoi. Mais, donc évidemment, tout n'est pas comparable, ça va de soi. Mais l'AED est à côté de toutes ces chrétiens souffrantes, en quelque sorte.
Oui.
Et le livre consiste à dire. Dans ces chrétiens souffrantes, il y a malgré tout des motifs d'espérance.
Absolument, c'est un peu toute l'histoire de l'Église, c'est qu'au fait, là où les églises sont le plus martyrisées, c'est là aussi souvent on voit les plus grands témoins de la foi s'élever, refuser non seulement que la foi disparaisse, mais faire de nouveaux disciples à des endroits complètement inattendus, les endroits où les chrétiens sont le plus persécutés, oui.
– Et alors, on parle des martyrs d'aujourd'hui, ou des confesseurs de la foi au moins, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les personnes que vous avez rencontrées pour préparer ce bouquin?
Alors, il y en a énormément qui m'ont frappé. Hein. C'est pour ça qu'on les a mis dans le livre, évidemment. Celle qui a toute mon attention en ce moment, c'est Sœur Maya, dont on parle dans le livre, qui est cette religieuse du sud du Liban. Elle est directrice d'une école qui est située à 18 km de la frontière israélienne. Donc, vous imaginez la situation.
Elle est dans une situation.
Au moment où on écrivait le livre, il y avait déjà des incursions de l'armée israélienne, parce que c'était donc en 2024-2025, des échanges de tirs au-dessus de son école. Malgré ça, elle a maintenu l'école en fonctionnement. Et malgré ça, cette école, qui est dans un des pires endroits possibles pour faire une école, obtient des résultats absolument extraordinaires. On a des élèves qui régulièrement reçoivent des bourses pour se rendre aux États-Unis. On a des élèves qui sont parmi les 10 premiers des concours de la francophonie régulièrement. Donc c'est vraiment un personnage à la volonté de faire, quoi, qui tient malgré tout.
Pardon de le présenter comme ça, mais une religieuse comme ça, elle tient comment pour pour défendre le Liban, parce que le Christ lui a dit que sa mission était de rester là. C'est quoi sa motivation, en quelque sorte ?
Ça, c'est vraiment un des cœurs de notre recherche, de notre enquête. C'est quand on a des profils comme cette sœur-là ou d'autres sœurs qui étaient dans la banlieue d'Homs et qui étaient au cœur du conflit en 2015. Hein, on était vraiment au pire moment et elles s'occupaient d'enfants handicapés sous les bombes. Enfin, les personnes dont, même dans les sociétés, on a du mal à s'occuper, elles sous les bombes, elles s'occupaient d'enfants handicapés. Donc des personnes comme ça, nous, c'est ça qui nous fascine, c'est on cherche leur carburant secret. Est-ce qu'ils ont un réacteur caché sous leur habit de religieuse ? Ils ont un truc ? On cherche un peu le truc. Alors la réponse, elle est, pour nous, c'est évidemment la grâce, mais c'est pas quelque chose qui s'illustre de façon flagrante, évidente. Faut enquêter. Je trouve que c'est ça ça fait partie des intérêts qu'on a eu à écrire ce livre, justement.
Parce que, par ailleurs, il se trouve que par hasard, je reviens du Liban, et moi, j'ai très frappé du décalage. Du décalage et de la complémentarité des gens qui défendent le nationalisme libanais. Et c'est assez beau parce que dans l'effondrement général de l'État, tenir pour une nation libanaise qui n'existe quasiment plus, c'est assez édifiant. Mais à côté de ça, il y a une forme d'universalisme où ils prient pour les Français, pour les Israéliens, alors qu'ils se prennent des missiles israéliens. Moi, je trouve ça hyper édifiant. Donc d'un côté, ils sont bien enracinés, c'est vraiment des gens de cette terre-là, mais de l'autre côté, c'est aussi des vrais chrétiens qui sont déjà d'une patrie différente. Quoi.
Absolument. Nous, ça fait la prière qu'on fait à l'Angélus, à la déguise en détresse, on dit l'Angélus, à chaque fois on prie évidemment pour les victimes, mais on prie aussi pour les bourreaux, pour que leur cœur soit converti. Pour nous, c'est à peu près presque facile, j'allais dire, de faire ça, même si ça nous demande évidemment un effort. Mais pour eux qui réussissent à le faire, là, on est vraiment dans l'application réelle des valeurs évangéliques.
Excellent. Et alors, donc on parlait de Terre Sainte, qui aujourd'hui est un peu, tous les projecteurs sont braqués dessus, de Terre Sainte au sens large, y compris le Liban, y compris la Syrie, et plus tout à fait la Terre Sainte, mais c'est pas loin quand même.
Et l'Égypte.
Et l'Égypte, c'est ça, exactement. Ça a été sanctifié par par le peuple de Dieu à l'origine et par le Christ, mais le Proche-Orient au sens large. Mais à côté de ça, il y a tous ces pays d'Asie qui sont sous la botte communiste. Il y a la Chine, évidemment, il y a la Corée du Nord. C'est encore plus difficile d'être catholique en Corée du Nord qu'au Liban. Vous avez des contacts avec ces gens-là.
Oui.
Et on peut les aider
Ça dépend beaucoup des situations. En Corée du Nord, il est absolument impossible, naturellement, d'avoir des projets en Corée du Nord. Ouais. En revanche, on a des informations qui nous viennent de ceux qui sont parvenus à fuir le pays.
Oui, c'est ça.
Et un prêtre nous disait que si un exilé se fait reprendre, maintenant il avait réussi à obtenir les questionnaires des autorités de Corée du Nord, une des questions qu'il pose, c'est « est-ce que vous avez rencontré un prêtre ?» Ce qui prouve que les autorités nord-coréennes sont tout à fait conscientes du fait qu'il y a des chrétiens cachés chez elles, et elles s'en inquiètent.
– D'accord, ah, extraordinaire.
– Mais de toute évidence…
– Mais il y a des prêtres en Corée du Nord ou…
– Pas à ma connaissance.
– D'accord, ok. – Donc c'est quand ils sortent de Corée du Nord et… D'accord.
– C'est quand ils sortent.
Okay. – Oh.
Mais c'est vraiment un cas extrême, évidemment. Ouais, bien sûr, il y a d'autres pays qui sont très compliqués. La Chine, dont on parle assez longuement dans le livre, vous verrez quand vous lirez le livre que je n'ai pu donner aucun élément qui permette d'identifier un des personnages que je vais interroger parce qu'on sait que c'est sous une chape de plomb. Et surtout, la situation s'est beaucoup aggravée depuis une dizaine d'années.
D'accord. Et alors, puisqu'on parle de la Chine, il y a eu cet accord avec Rome qui n'est pas hyper clair, on n'arrive pas très bien à comprendre, donc on voit bien qu'il y a une reconnaissance des évêques officiels, donc ça je comprends, du côté de Rome vis-à-vis du Parti communiste chinois. Ce qui est moins évident, c'est ce que Rome a obtenu, on imagine que Rome a obtenu quelque chose, je ne sais pas très... Je ne dis pas ça du tout pour... moi j'ai été assez critique de l'accord, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Je dis ça surtout parce que je suis très perplexe sur tous ces gens de l'église clandestine. On a l'impression qu'on leur met deux claques, c'est-à-dire d'un côté ils se payent la persécution communiste, et de l'autre côté on leur dit en fait vous êtes un petit peu désobéissant quand même.
C'est le sentiment que certains peuvent avoir, en particulier chez les catholiques qui ont de la génération précédente.
Oui.
C'est pas une question facile. Il faudrait passer du temps dessus.
C'est pour ça que je vous pose la question. Enfin, voilà,
je comprends très bien qu'on soit très critique vis-à-vis de ces accords-là, et connaissant en plus les pratiques du Parti communiste, ça peut paraître très naïf de faire des accords avec cette entité-là. Ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue de l'Église, en 2018, quand les accords ont été lancés, l'Église pouvait craindre un schisme au sein de l'Église de Chine. Et ça, le schisme, c'est la crainte ancestrale de l'Église, à juste titre.
Oui, absolument. OK. On a évidemment, encore une fois, ce monde communiste asiatique, ce monde Terre Sainte. Les gros dossiers de l'AED, en dehors de ces deux grands pôles…
On a beaucoup de gros dossiers.
Oui, c'est ce que je crains.
On commence le livre exprès par l'Amérique latine, parce que tout le monde a dans l'idée que l'Amérique latine est un grand continent catholique et que par conséquent, l'Église devrait y être chez elle. Or, il y a énormément de difficultés en Amérique latine, et y compris des difficultés qui exigent que nous, depuis la France ou depuis les pays donateurs de l'AED, on vienne les aider sur un certain nombre de projets. C'est évident sur des pays comme le Nicaragua, comme Cuba et le Venezuela qui sont…
– Et donc ça, leur problème c'est quoi? C'est que les autorités général un peu semi-bolcheviques interdisent d'ordonner des prêtres ou des choses comme ça ou interdisent aux évêques de parler en politique
C'est plutôt interdire aux prêtres, aux évêques de parler en politique, mais ça, par exemple au Mexique, grand pays catholique, 80% catholique, il y a une laïcité très dure qui fait que si un sermon est interprété, peut être interprété politiquement, ça ne va pas être possible pour le prêtre. C'est écrit dans la Constitution que les prêtres ne doivent pas avoir de parole politique en raison du passé, en raison de la guerre des Christians, de choses comme ça. Donc il y a des autorités de pays très catholiques qui sont très anti-catholiques.
Oui, c'est clair. Le connaît en France depuis quelques siècles maintenant, hélas.
Oui, c'est un autre sujet.
Non, mais c'est un autre sujet, mais ça fait partie de… Nous, on peut comprendre la situation du Mexique, parce que la laïcité un peu agressive, on l'a eu aussi chez nous. Ça ne nous faisait pas complètement étranger.
C'est un autre niveau en ce moment. Mais il y a aussi le problème des narcotrafiquants, où l'Église va se retrouver dans les quartiers les plus dangereux. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement des prêtres qui sont assassinés par des narcos. Les prêtres ont plusieurs facteurs de danger. D'une part, ils s'occupent des anciens toxicomanes. Ouais. Ils vont aller contre, évidemment, la drogue, ce qui plaît pas aux narcos. Et puis, souvent aussi, les prêtres sont les seuls arbitres, les seuls intermédiaires entre les autorités et les narcos. Et ça, c'est une position très dangereuse entre les deux. Donc voilà pour l'Amérique latine. Mais il y a beaucoup de sujets. En Inde, on n'imagine pas que c'est un pays où il y a de grandes persécutions religieuses. Or, depuis qu'on a Narendra Modi au pouvoir, donc depuis 2014, le BJP, qui est un parti hindouiste
nationaliste, a
pris beaucoup d'importance. Et on voit des lois anti-conversion qui deviennent de plus en plus dures. On voit des pogroms.
Et puis des lynchages et des pogroms sont d'une brutalité inouïe.
C'est ça.
Et on voit ça au Pakistan aussi.
Les personnes qui perpétuent ce genre d'actes
sont très protégées.
Ont le sentiment, en tout cas, que le gouvernement va dans leur sens.
Oui, absolument.
Au Pakistan, là, on est au fond, malheureusement, de l'enfer pour les chrétiens.
Revenons, parce qu'on va finir quand même là-dessus. Je suis très frappé, parce que, donc, évidemment, il y a cette dimension très noire de la persécution, mais il y a aussi cette dimension… pour moi, ce livre est un beau livre, parce que c'est un livre lumineux. Dans la noirceur, il y a quand même plein d'étoiles. Il y a des gens magnifiques. Donc, évidemment, ces gens sont… ces gens courageux qui tiennent sous la persécution. Et par ailleurs, on voit aussi des conversions. C'est un peu inouï quand même.
Il se passe des choses inouïes. Pour le sujet des conversions, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, on avait vu autant de musulmans se convertir au christianisme de leur propre chef. C'est le cas en Iran, c'est le cas en Kabylie, c'est le cas en Indonésie, où il y a des mouvements massifs de conversion. Mais peut-être d'une autre façon et d'une façon plus large, comme on le disait en tout début d'entretien, il y a une manifestation de foi qui se fait dans les endroits les plus dangereux, les plus terribles du globe, qui est absolument hallucinante. Nous, on avait parlé aux responsables des vocations de Sokoto. Sokoto, c'est au nord-ouest du Nigeria, un des endroits les plus attaqués au monde, où les prêtres sont le plus en danger. Et les responsables des vocations nous disaient, vous savez, on a un problème terrible de vocation ici, terrible. Il y en a beaucoup trop, on est obligé d'en refuser 3 sur 4. Donc on a des témoignages comme ça qui nous parviennent de ces pays-là.
Extraordinaire. Ben merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je trouve que c'est quand même une très belle façon de conclure. Dieu agit encore dans notre... Enfin, voilà, c'est lui le maître de l'histoire. Il agit dans notre histoire et aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Thomas. Donc, je rappelle, Témoin de l'espérance, c'est paru chez Arthège. Et voilà, c'est un livre, encore une fois, c'est un livre pour penser à nos frères persécutés. Et c'est un livre lumineux. C'est pas un livre lugubre, quoi. Merci, Thomas.
Merci.
Ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.